Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table dans la seconde partie de l'émission La Grande Table des Idées. Aujourd'hui, pourquoi nous affichons-nous constamment? Acceptons-nous pourquoi d'être tracés? Pourquoi fliqués? Encore pourquoi? Par des entreprises dont nous ne connaissons à peine les finalités. Il est théoricien critique américain, spécialiste de philosophie politique. Bernard Harcourt revient avec La Société de l'Exposition au Seuil. C'est un appel à la résistance numérique dont il nous parlera dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, on a le droit de rêver son père. Jusqu'à midi et demi, rendez-vous avec l'auteur d'Asile de fous, de Claude Stria ou encore de Microfiction, Goncourt de la Nouvelle pour ce deuxième recueil, paru il y a 2 ans. Il signe en cette rentrée un livre à son père. Régis Geoffrey est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Ces dernières années, le roman français s'est repeuplé de pères et de mères auxquels les enfants écrivains rendaient hommage, des tombeaux littéraires dressés en l'honneur de ces parentés illustres ou anonymes, de leurs faits d'armes, de leurs destins tragiques ou de leur personnalité singulière. Et voilà qu'en cette rentrée, il en arrive encore un qui ne cache même pas son nom, Papa. Et c'est donc au Seuil. Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour.
Bonjour. Auteur de contes cruels, de noires microfictions, de romans entre sang et larmes. C'est pourtant pas un mot qu'on s'attend à vous entendre prononcer, ce papa. Ça sonne un peu mièvre pour un dur à cuire comme vous, un écrivain de la vieillesse, de la mort, plutôt que de la renaissance ou de l'espoir. Pour en arriver à ces deux syllabes, la route a été longue, Régis Geoffrey.
Oui, extrêmement longue. Je suis assez opposé d'ailleurs à cette façon de dire toujours les papas, les mamans, ou les pères et les mères. J'ai toujours été opposé à ce genre de pratique. Là, c'est justifié par le livre parce que finalement, j'arrive à l'appeler papa à la dernière. À la dernière ligne du livre, en fait. Ouais. C'est pas quelque chose. Je l'ai gagné après tout ce livre parce que, en réalité, de papa, j'en avais très peu. C'est une histoire un peu étrange parce que mon père n'a jamais déserté le foyer familial. Il a toujours été là à chaque minute, à chaque seconde. Et pourtant, il était pas là. Et c'est très difficile d'expliquer. Ça rentre peu dans des catégories, si vous voulez, parce que les gens vous disent, mon père me battait, mon père était gentil, mon père était ci, mon père était ça. Moi, mon père était sourd. Et il était bipolaire et il était sous aldol, c'est-à-dire c'est un neuroleptique qui abrutit la personne et qui réduit son moi, je dirais, qui empêche de penser. Donc j'en avais très très peu. Il parlait peu, il me parlait pas comme un père parle. Il n'y avait pas d'échange. J'ai pas de souvenir de choses que j'ai pu faire avec lui. J'en ai trouvé une seule. C'était pas un père avec qui j'ai pu jouer au football ou bricoler ou je ne sais quoi. C'est pas un père avec qui j'ai eu des échanges intellectuels. Pourtant, c'était pas un manuel, c'était quelqu'un qui était plutôt, c'était un intellectuel, je dirais. C'était un homme annihilé. Socialement, il était annihilé, il était rien socialement. Dans un milieu où les gens étaient quelque chose. J'avais beaucoup de mal même. C'était le sujet que je voulais éviter. J'ai voulu éviter toute ma vie d'en parler.
C'était même un non-sujet. C'est pas que vous avez voulu l'éviter. Il était absent, en fait.
C'était pas un non-sujet parce qu'on vous demande quand vous êtes gosse, que fait votre père, etc. C'était pas un non-sujet. C'était un sujet que je suppliais le ciel qu'il ne vienne pas sur la table. Et même à l'âge adulte, je comprends même pas que j'y sois arrivé. C'est-à-dire, vous m'auriez dit il y a un an que j'allais écrire un livre sur mon père. Il y avait absolument aucune chance. C'est en réalité donc en voyant un documentaire sur la police de Vichy il y a un peu plus d'un an que je vois apparaître mon père entre deux gestapistes arrêté en 43. Bon, je finis par filmer la scène, je reviens en arrière, je filme la scène, je m'aperçois que c'est la maison de mon enfance et que les deux gestapistes se la jouent parce qu'après j'ai appris qu'en fait la Gestapo de Marseille c'était des petits macros en grande partie et là c'est les qui se jouent. Mais il y a un homme terrorisé et c'est mon père. Voilà, et c'est à partir de là que j'ai écrit ce livre, ce que je comptais pas du tout faire au départ, mais je comptais faire une enquête là-dessus. Et en fait, je suis tombé sur mon père.
Vaut-tu la peine d'un livre, vous demandez-vous. Si je n'avais pas vu ces images, tu serais resté dans les égouts de ma mémoire, c'est-à-dire bas, très très bas. 7 secondes, Régis Jouffray. Il va ressurgir un soir de septembre 2018, furtivement, dans ce documentaire sur la police de Vichy. On le voit effectivement sortir de chez lui, emmené par 2 hommes. Vous les avez capté ces images et on les retrouve sur la couverture du livre, ce qui fait que nous aussi, on peut apercevoir votre père à travers cette image fragmentée. Ces quelques secondes décomposées. Il est emmené par 2 hommes et la crainte se lit, vous l'évoquez, sur son visage. Qu'est-ce qu'elle va provoquer en vous, cette image? Un espoir ou est-ce qu'elle va réveiller surtout ce que vous appelez cette soif de père, mais pas de n'importe quel père?
C'était une sorte d'espoir parce que je me disais, lui qui était rien, là il est quelque chose puisqu'il est arrêté. Donc il y a une raison. Cette raison, je ne la connaîtrai jamais. Le mystère que personne n'ait été au courant, je ne le connaîtrai jamais, puisque c'est visiblement tourné en plein midi, qu'à l'époque, un tournage, il y avait un camion, il y avait une foule de gens, que ça a été pris champ contre champ, je vais aller rapidement, mais c'est pas une reconstitution, parce que techniquement, on retrouve le film en 47.
Parce que ça fait partie des scénarios possibles.
Non, c'est ce que vous allez... parce que c'est pas, okay. C'est ça, c'était des bourges, ils étaient pas follement demandeurs d'apparaître au cinéma sur des écrans de 10 mètres sur 4. Avec les menottés, arrêtés par la police, non.
Rien dans les archives, vous avez cherché?
Alors non, il n'y a rien dans les archives. C'est une archive du Parti communiste, sur laquelle on tombe, de 47, d'un film qui s'intitule Voilà Marseille, qui était pour la réélection d'un certain Christofol à l'Amérique. Il n'a pas été d'ailleurs. La source de la vidéo s'arrête là. Quelle est ta question? Excusez-moi.
Non, on essaie de comprendre avec vous pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là sur cette image? Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, il est arrêté. Moi, ce que je peux reconstituer par la Gestapo, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été gardé. Il n'a pas été donné à la police, il n'a pas été déporté parce qu'on aurait des traces dans les fichiers de la police. On n'a pas de traces dans les fichiers de la police et quant aux archives de la Gestapo, ben il n'y en a pas. Elles ont été brûlées comme la plupart des archives de la Gestapo. Donc on n'a aucune trace. Il a été sûrement libéré. Alors la seule chose dont on pourrait se douter, hélas, c'est que c'était honteux, qu'il avait peut-être parlé. Mais en même temps, sur ce plan-là, moi, j'ai une excuse plénière, c'est que j'aurais parlé aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux imaginer. Mais ça s'arrête là. Par contre, je suis tombé de face à face avec lui. Et alors, avec un personnage que j'avais pas prévu, c'était moi. Mais alors, moi qui n'étais plus moi, parce que c'était par ce petit enfant qui était complètement détaché de moi. C'était l'enfant que j'avais été. Et j'ai pu avancer à cause de lui, parce que je me suis dit, je peux bien faire ça pour lui. Parce que moi, je comprends en tant qu'adulte ce qui a pu se passer, mais lui, il n'avait pas de père. Il avait un père absent, il avait un père qui n'avait aucune générosité. Il faut bien que je le défende, lui. Je sais que ça peut paraître très abstrait, mais pour moi, c'est extrêmement concret, quoi.
En voyant ces images, vous l'écrivez, il y a quand même le rêve qu'Alfred, c'est son nom, ait été merveilleux, qu'Alfred se soit comporté en héros. Pour en arriver à ces 2 syllabes, papa, Régis Jouffray, on l'évoquait, la route a été longue, il vous a fallu faire connaissance, vous réconcilier, pardonner. Vous dites que vous avez gagné un père. On sent aussi que vous avez cherché à le mériter, parce que c'est aussi un roman de la culpabilité, la vôtre, de ne pas l'avoir aimé, ce père.
C'est la culpabilité, c'est pas tellement de ne pas l'avoir aimé, parce que non, c'est pas le problème. Le problème, c'était que en fait, il était sourd et donc et bipolaire, et en tant qu'enfant, je pensais que c'était par ma faute, qu'il était sourd et qu'il était bipolaire, et qu'en fait, mon devoir, c'était bipolaire, on n'en parlait pas, mais de devenir sourd. C'est-à-dire que longtemps, j'ai cru que j'allais devenir sourd, et que finalement, ces refus de ne pas l'être... Ce refus de ne pas être sourd, c'était une trahison. Voilà, c'est de l'ordre. Je dirais pas l'inconscient parce que je peux le dire de façon très 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 simple. C'était ce que j'avais en moi. C'est-à-dire que on peut être dans un état tel que le malheur de ses parents, on croit qu'on en est la cause. Et là, c'était une infirmité qui était avant ma naissance, mais finalement, moi, je m'en sentais coupable.
Il était présent sans l'être, il était vivant sans l'être, il existait en parallèle, écrivez-vous. Lui, c'est donc Alfred, le mari de Madeleine. On n'a pas encore parlé de votre mère. Il est ce père muré dans sa surdité, avec lequel vous n'avez pas beaucoup de souvenirs, hein, de moments partagés. Vous disiez pas de partie de foot, pas de collection de timbres, peu de bonheur ou de fierté. Il semblait avoir aucun projet ni nourrir le désir que son futur diffère du présent. Une vie sans perspective, sans passé, enfermée dans l'instant, cette capsule. De ça aussi, vous n'avez pas hérité de lui. Ce sentiment, cette vie dans le présent, enfermée dans un temps présent.
Oh, pas du tout. Ah non, moi j'ai toujours été, au contraire, je suis dans la projection totale, je suis dans la surexcitation permanente sur ce que je fais, sur ce que je veux faire. Je suis plutôt dans l'avenir que dans le présent, ce serait plutôt l'inverse. Mais moi j'ai pas ce fil à la patte, j'allais dire, si vous voulez. C'est un handicap au sens où je parlerai de quelqu'un en fauteuil. Si vous voulez, le fils de quelqu'un en fauteuil qui marche, il peut devenir champion de marathon. Donc moi, sur ce plan-là, j'avais pas cette... on est toujours le fils de ses parents, mais sur ce plan-là, non, j'ai pas du tout été vécu dans mon présent, encapsulé et sans perspective d'avenir.
Vous avez besoin de projets, vous avancez avec des projets, vous en avez toujours un d'avance.
Oui, j'ai une sorte de surexcitation à vivre, à exister. J'ai pas la possibilité, j'ai pas le désir de. Le présent ne me suffira jamais. Voilà.
J'aurais aimé t'admirer. Tu aurais pu faire l'effort de me donner au fil du temps quelques motifs. J'étais assoiffée de toi. Je crevais du désir de t'aimer. Tu n'étais pas généreux. Il fallait que je me contente de la vie que tu m'avais offerte en jouissant. Dans la plupart de vos livres, Élise Geoffrey, vous racontez la triste condition humaine. Ici, c'est un peu la triste condition paternelle, quand même. Est-ce que vous pensez que tout vient de là? Que vous êtes, vous, là aussi, aujourd'hui, l'écrivain que vous êtes.
Ça, je viens forcément de là, mais en même temps, il y a la recréation. Vous savez, il faut être... je pense que quand on parle de ses parents, quand on parle de son enfance, c'est le moment d'être dans l'optimisme le plus total et dans le bonheur absolu. Parce que finalement, contrairement à ce que a pu dire Freud ou les autres psychanalystes, il y a deux sortes d'enfants. Ceux qui ont été aimés par leurs parents et ceux qui ne l'ont pas été. Moi, j'ai été aimé constamment par mes deux parents. Donc, quand on a été aimé par ses deux parents, j'allais dire on ferme sa gueule, ce que je n'ai pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas, je n'oserais pas dire que je n'ai pas eu une enfance heureuse. Je n'oserais pas, ce serait scandaleux, c'est comme de dire je meurs de faim alors qu'il y a des enfants qui dorment dehors à Paris ou à Madagascar. Quoi, on peut pas. Il y a un moment, non, j'ai eu une enfance heureuse parce que j'ai toujours été aimé par mes deux parents, même par mon père, avec le petit bout de père que j'avais, il m'a toujours aimé.
Alors pourquoi vous n'avez pas fermé votre bouche, comme vous dites? Pourquoi vous l'avez écrit, ce livre, finalement? Écoutez juste les mots de l'écrivain Jean-Louis Hésine à l'occasion de la parution, c'était il y a 10 ans, d'un livre autobiographique, Les Taiseux, sur son difficile accouchement.
C'est un processus qui a été très long, puisqu'il a pris justement ma vie entière, qui est déjà un peu déroulée. Je me suis rendu compte à un moment donné que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent... tous les livres, on parle de livres bien sûr, même les moins personnels, j'ai fait quelques essais sur des écrivains, justement sur d'autres écrivains, dérivés en somme d'un livre que je n'avais pas écrit, qui était celui-là. Et je m'en étais rendu compte notamment à l'occasion de deux romans. J'avais une difficulté, voire une sorte d'impossibilité, en tout cas de malaise, à évoquer un personnage d'enfant, à camper un personnage d'enfant, quel qu'il fût. Et je me suis rendu compte à cette occasion, lentement, que en réalité, je tournais le dos à l'enfant que j'avais été, et il s'est imposé peu à peu. Quoi. C'est lui d'ailleurs qui a imposé un petit peu cette écriture. Mais c'est vrai que ça a été un processus très lent et qui toujours chez moi, effectivement, a rebondi sur l'écriture ou la littérature.
Voilà, camper un personnage d'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait plus simple pour vous, Régis Geoffrey?
Non, je crois pas. Non, parce que moi, j'ai une vie, j'ai deux enfants, j'ai pas eu de... Non, je crois pas. Je crois pas du tout à cette fatalité. Et on reproduit son enfant. Je pense pas avoir reproduit mon enfance avec mes enfants. Non, c'était un point noir dans ma vie. J'aurais jamais imaginé en parler. ce côté, vous savez, parce que où on part, moi quand j'étais enfant, je me sentais coupable et j'avais une certaine façon honte parce que tous les pères autour de moi étaient ingénieurs, PDG ou je ne sais quoi. Moi c'était pas le cas. Le fait d'être sourd, c'est quelque chose qui portait à rire. Donc c'était quelque chose de comique et je devais être trop orgueilleux, mais moi ça m'humiliait. Mais aujourd'hui non, j'avais pas. Vous savez, on a quand même une possibilité de sortir de son enfance. C'est-à-dire que je crois pas du tout au fait qu'on est enfermé dans son enfance. Et puis je vous dis, moi, ayant été aimé absolument par mes deux parents et ayant été enfant unique, vous savez, moi, j'ai jamais douté de rien. D'une certaine façon, si vous me dites voilà c'est un criminel en série, moi je vais aller déjeuner avec lui parce que je dis mais à moi il s'attaquera pas parce que j'ai pas cette idée là. Donc moi j'ai eu une enfance que je déclare solennellement avoir été heureuse.
Et donc il fallait le pardonner de quoi ? Lui pardonner quoi ? Quelle faute ? Quel crime il a commis ?
Mais c'était à moi qu'il fallait que je me pardonne moi. Il fallait que moi je me pardonne à moi de pas être devenu sourd. Voilà, de pas être allé d'être allé dans son dans son sens. Vous savez, ça c'est l'écriture de ce livre qui me l'a dit. Ça a été pour moi assez douloureux à écrire cette histoire. Ça a jamais éprouvé une douleur pareille à écrire. Et surtout, c'est inimaginable pour moi d'avoir écrit ce livre. J'aurais jamais pensé oser. Pour moi c'est une aventure invraisemblable. Si un an on m'avait dit que c'est pas que le livre soit raconte une aventure invraisemblable, mais personnellement je donne juste mon avis, pour moi c'était invraisemblable d'écrire ce livre.
Et il en reste quoi justement? Est-ce que être le temps d'un livre exclusivement son descendant comme vous l'écrivez, ça vous a fait du bien? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un peu plus le fils de votre père?
Ah oui, beaucoup plus. Alors je sais pas si on est mieux, moins bien. Vous savez, la vie, on avance. Le hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est mieux ou pas? C'est pas. J'ai pas d'avis là-dessus. Mais là, ce qui est vrai, c'est que je suis arrivé à avoir un père avec un bon souvenir de mon père que j'ai inventé. Mais c'est normal. Je suis romancier, donc j'ai inventé une journée magnifique avec mon père à la fin du livre. Une journée à la plage avec lui qui était merveilleuse. Et je dirais que ce livre n'est que vérité parce que quand je mange, je le dis. C'est-à-dire que là, cette journée est inventée, mais je dis qu'elle est inventée. Voilà. Et tout est vérité. Je ne suis pas un mensonge qui dit toujours la vérité, mais ce livre n'est que vérité parce que quand on ment et qu'on dit qu'on ment, on dit la vérité.
Le roman s'appelle comment ?
Papa.
Il paraît au seuil. Régis Geoffrey, notre invité jusqu'à midi et demi.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of this sins. For a blue corn, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver man, magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes all my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man,
sugar man. Sugarman, le pianiste de jazz et compositeur Baptiste Trottignon pour cette reprise du titre de Sixto Rodriguez avec Thomas de Pourquerie au chant, à retrouver sur le nouvel album de Trottignon. You Have Changed, il est dans les bacs depuis novembre. En ce moment-là, il est artiste associé et en résidence pour 2 ans au Grand Théâtre de Tours. Il sera en concert les 14 et 15 janvier au Duc des Lombards à Paris, Baptiste Trottignon, et le 9 février au Palais des Congrès de Cannes, pour du Mozart cette fois, pas pour son album, avec l'Orchestre de Cannes, piano série 3. France Culture, midi 22.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
C'est un détail, Régis Geoffrey, mais vous êtes né au 4 rue Marius Geoffrey à Marseille. Bel immeuble de 4 étages près du Prado. Le rez-de-chaussée était d'ailleurs où est à vendre en ce moment, hein, selon Google Maps. Vous pourriez le racheter, ça vous ferait un territoire à vous. En tout cas, avoir une rue à son nom, ça veut dire quand même quelque chose, que votre nom a une histoire.
Il a une petite histoire. En fait, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Et en fait, c'était un quartier où il y avait de la campagne, des propriétés, j'imagine. Il était ce qu'on appelle architecte maçon, c'est-à-dire qu'il était entrepreneur en maçonnerie. Il construisait des immeubles et quand il pouvait pas les vendre, eh ben, il les gardait. Donc, il a gardé cet immeuble en tout et pour tout d'ailleurs. Et il mettait toutes les rues du quartier, c'est le nom de ces gens qui ont dû mettre d'ailleurs eux-mêmes la plaque, j'imagine. Voilà. Mais il a pas une histoire héroïque non plus. Il a une histoire très simple.
Dans ce livre, vous dites que vous rêvez un père, Alfred, qui parvient à rester un père de fiction ou pas jusqu'au bout de ce livre. Est-ce que vous avez eu le sentiment de le juger moins ou beaucoup plus que vos autres personnages de romans, inspirés parfois des pires faits divers, et que vous nous disiez il y a 2 ans autour de cette grande table, ne pas juger le temps d'un livre en tout cas?
C'est pas le jugement, je vous dis, moi, j'ai pas de jugement en tant qu'adulte, si vous voulez. Là, c'est vraiment, si j'avais dû écrire en tant qu'adulte, et si j'avais dû trahir, j'aurais écrit différemment le livre. J'aurais écrit avec beaucoup plus d'élégance, de désinvolture, peut-être. Là, c'est que je me suis retrouvé, c'est pas une abstraction, à part cet enfant, petit enfant, qui n'avait rien à comprendre, mais qui était là et qui aurait pu rêver d'un père autre, qui devait même pas oser en rêver, parce que on peut pas oser rêver, c'est blasphématoire quand on est enfant d'aller oser rêver d'avoir un autre père. Mais les autres pères autour de moi étaient pas comme ça, et c'était plutôt ce décalage. C'est des trucs qui peuvent paraître un peu bêtes, même vous savez, c'était une bourgeoisie de province qui n'avait rien de milliardaire, mais par exemple je me rappelle je me suis vengé avec les voitures, j'en ai acheté qui étaient bien, mais quand j'étais gosse, je demandais quelle voiture a ton père, c'était la grande chose, et moi on n'en avait pas à un moment, mais on louait une Dauphine l'été, donc je disais il a une Dauphine, et on me dit ah, mon père il a une 404, et donc vous voyez, ça c'était encore le côté matériel rigolo, mais le fait d'avoir un père qui était sourd, quand on découvrait ça, quand les autres enfants découvraient ça, c'était quelque chose de ridicule. Voilà. Et donc, quand vous êtes enfant et que votre père, les autres pensent qu'il est ridicule, vous vous sentez coupable d'avoir un père que les autres jugent ridicule.
Il faut toujours se méfier des romanciers, écrivez-vous dans ce livre-roman « Papa » qui paraît au Seuil, Régis Geoffrey. Quand le réel leur déplaît, ils le remplacent par une fiction. Ça, ce sont vos mots. On se souvient à la rentrée dernière, en septembre, de l'affaire Yann Moix, qui a fait grand bruit, puisqu'il revient là aussi sur son histoire familiale, avec des accusations de maltraitance à l'égard de ses parents, que dans ce livre roman, il nie l'existence de son frère, qui aujourd'hui d'ailleurs lui ferait un procès, selon l'hebdomadaire L'Express. Et ça, c'est peut-être l'avantage d'être fils unique, c'est que vous n'aurez pas de règlement de compte familial autour de ce livre, sur la mémoire en tout cas de votre père. Mais ce que je voulais vous demander, c'est quel est le contrat que vous avez le sentiment de passer avec le lecteur, quand on parle de soi comme ça. Est-ce qu'il y a un devoir pour vous quand même de véracité ou d'être le plus sincère possible? Quel contrat vous nouez avec le lecteur?
Je sais pas s'il y a un contrat. Là en tout cas, j'ai tout dit, hein. C'est un roman... où je dis la vérité. Alors, question famille, je m'en suis beaucoup préoccupé, pas pour ces raisons-là, parce que c'était bien avant cette affaire-là, mais simplement, je voulais absolument pas mettre en cause aucun membre de ma famille, parce que quand on se reconnaît dans un roman, on n'est jamais content. Donc, je suis arrivé à garder l'éclairage sur mon père, ma mère et moi, si j'ose dire. Et non, et je pense à ma famille à qui j'ai donné le livre en priorité. Certains membres de ma famille, il n'y a pas eu de problème parce que c'est pas mon propos, c'est pas de parler d'une famille, c'est de parler de mon père. Voilà. Mais vous savez, les histoires de chacun sont particulières. Moi, je dis, j'ai été aimé par mes deux parents, mais c'est vrai. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est un absolu. Je peux pas dire, il y a un moment où j'ai pas été aimé. Il y a aucun moment de ma vie où mon père ou ma mère ne m'ont pas aimé. Donc ça, c'est un acquis dans l'existence qui, à mon avis, est gigantesque. Je m'en suis aperçu et je m'en aperçois en vous en parlant parce que je l'ai pas dit dans le livre. Mais je pense que c'est que l'humanité est vraiment séparée en ces deux personnes, ou alors aimée par d'autres que par ses parents. Mais un enfant aimé au départ, il est béni. Il est pas béni des dieux, mais il est béni des parents. Et c'est quelque chose. Je me suis aperçu que ça, par contre, et en revanche, c'est un cadeau. Écoutez, vous savez, c'est les fées qui se penchent sur les berceaux. Alors, moi, je dis que la fée qui s'est penchée sur le berceau d'Alfred Jouffray, mon père, n'a pas été très généreuse. Mais, en tout cas, moi, sur mon berceau, elle a été généreuse en cela qu'elle m'a donné l'amour absolu de mon père et de ma mère, et que je ne remets jamais en question, ni dans ce livre, ni ailleurs.
C'est un roman d'amour.
C'est un roman basé sur l'amour, oui, parce qu'il n'y a pas de, on n'a pas de problème d'amour. On n'avait pas de problème d'amour tous les trois.
Est-ce que c'est votre premier roman d'amour, Régis Jouffray?
Non, j'avais déjà écrit Lacrymosa. J'ai écrit beaucoup de romans d'amour. J'ai écrit sur l'amour beaucoup. J'ai écrit des histoires sur l'amour, mais simplement, je ne sais pas pourquoi on m'a fait cette réputation assez abracadabrante. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé à dire que j'étais cruel, ce qui est de la diffamation, parce que les gens qui me connaissent me trouvent plutôt gentil que cruel, mais peu importe. Mais non, mais là, oui, là, c'est un roman où il n'y a, en tout cas, pas de ressentiment et pas de haine. Mais parce que mes parents m'aimaient, voilà.
Merci beaucoup, Régis Jouffray. Papa, merci. Ce nouveau roman, le vôtre, vient de paraître au Seuil. Merci d'être venu nous en parler.
Merci.
À très bientôt.